Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins se font tous les jours foudroyer sur la route de Damas en compagnie de Jules Salomon, Jean-Daniel Loup, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture paulinienne des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger, avec aujourd'hui à la prise de son Ariane Herbé. À 10h50, pour son journal de la philosophie, François Nudelman s'entretiendra aujourd'hui avec Anka Vassiliou à propos de son livre paru chez Vrin, « Images de soi dans l'Antiquité tardive ». Quant à nous, c'est le dernier temps aujourd'hui de notre semaine badiouzienne, c'est-à-dire passée en compagnie du philosophe Alain Badiou. Lundi, il nous a présenté sa métaphysique du multiple pur. Mardi, a discuté de la pensée du théâtre, à ne pas confondre avec la pensée sur le théâtre, en compagnie de la metteur en scène Marie-Josée Malice. Et hier, c'est Monique Dixot qui lui a donné la réplique à propos de Platon. Aujourd'hui, en guise d'absence de point final, c'est autour de la figure de saint Paul que nous allons prolonger ces discussions, figure en laquelle Alain Badiou voit le fondement de l'universalisme, rien de moins.
Que dirons-nous donc? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Que non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivre encore en lui? Ou ignorez-vous que nous tous, qui avons été immergés dans le Christ, nous avons été immergés dans sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que, comme le Christ a été relevé d'entre les morts par la gloire de son Père, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si par analogie avec sa mort nous avons participé à sa nature, nous y participerons aussi par analogie avec sa résurrection.
Pourquoi saint Paul? Pourquoi requérir cet apôtre d'autant plus suspect qu'il s'est de toute évidence autoproclamé tel et que son nom est couramment associé aux dimensions les plus institutionnelles, les moins ouvertes du christianisme? L'Église, la discipline morale, le conservatisme social, la suspicion contre les Juifs? Comment inscrire ce nom dans le devenir de notre tentative? Refonder une théorie du sujet qui en subordonne l'existence à la dimension aléatoire de l'événement comme à la contingence pure de l'être multiple, sans sacrifier le motif de la vérité. Bonjour Alain Badiou.
Bonjour.
Bienvenue pour ce dernier jour de cette semaine passée ensemble sur le nouveau chemin de la connaissance. Pourquoi saint Paul? C'est la question que je pose en début d'émission. C'est aussi la question que vous posez au début de votre ouvrage consacré à saint Paul. On y attend presque, on s'attend à une dimension, disons, religieuse, une dimension qu'on n'a pas du tout évoquée toute cette semaine. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, très rapidement, saint Paul, vous l'appelez tout simplement Paul.
Oui, et je voudrais dire que saint Paul a requis en moi, au début, très tôt, bien avant ce livre, la sensibilité littéraire. Je pense que c'est un point significatif pour expliquer comment il m'a été relativement facile de décoller saint Paul de l'horizon chrétien auquel il appartient par ailleurs massivement, si je puis dire. Parce que c'est un écrivain extraordinaire. C'est un écrivain extraordinaire. Je me souviens que mon ami Henri Beauchaud, le poète et écrivain belge, qui est hélas mort il y a peu de temps, me disait que saint Paul, c'était une écriture qui ressemblait à Shakespeare. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est Shakespeare qui ressemble à saint Paul. C'est tout à fait vrai. C'est donc un écrivain dont j'ai toujours pensé qu'en tant qu'écrivain, et par ce qu'il écrivait, il devait porter une vérité qui n'était pas réductible à l'héritage religieux lui-même. C'est-à-dire qu'il était, en quelque sorte, dans une écriture si, à la fois si violente, si neuve et si mobilisatrice, qu'elle excédait ce que l'Église en a tiré, qui a pourtant eu une puissance millénaire, mais aussi une puissance avec les défauts de toute puissance, les graves défauts de toute puissance de cet ordre. Et donc, c'est d'abord parce qu'il me touchait personnellement dans la puissance de la langue que saint Paul m'a convaincu que sa dimension la plus importante pour moi, finalement, était indépendante de l'appareil religieux dans lequel elle est inscrite depuis des siècles. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, y compris du point de vue de la fable religieuse, j'ai tout de suite et toujours été particulièrement sensible au fait que, contrairement à une longue tradition christique de culte de la mort, où le personnage central est le crucifié, avec, y compris, par exemple, en Espagne ou au Mexique, un baroquisme sinistre qui entoure ce culte du supplicié. En réalité, pour saint Paul, le point clé, le point fondamental, c'était la résurrection. C'était la résurrection du Christ qui constituait l'événement. Bien sûr, pour ressusciter, il faut mourir. Mais, y compris dans le texte qui a été lu tout à l'heure, on sent bien que la mort n'est qu'un argument pour préparer l'argument fondamental, qui est que, puisque nous sommes morts avec le Christ, alors nous allons ressusciter comme lui. Or, cette question de la résurrection, elle m'importe beaucoup parce que elle suppose la possibilité de métamorphose subjective. Voilà. Et ça, c'est le point autour duquel va tourner, en réalité, toute mon interrogation de Paul. Dire comment peut-on retenir philosophiquement et sans faire de concession à la symbolique religieuse, comment peut-on retenir l'idée de la conversion, l'idée de la résurrection, l'idée d'un devenir autre radical du sujet, à partir en particulier de ce que saint Paul nous dit. Et cela est biographique, parce que, outre évidemment la frappe littéraire de saint Paul dont j'ai parlé, je dois dire que l'expérience de l'événement mai 68 et de ses conséquences a été dans ma propre existence, dans ma propre vie, un chemin de Damas. Un chemin de Damas, c'est-à-dire un moment où quelque chose m'a à la fois cloué et suscité, comme ça, ressuscité, au point que pendant les au moins 10 ans qui ont suivi, ma vie concrète était entièrement différente de celle que j'avais eue avant. C'était une vie faite de trajets dans des endroits que je ne connaissais pas, de contacts avec des ouvriers étrangers que je n'avais jamais vus, d'organisation, de travail dans la nuit, à monter telle ou telle disposition de manifestation, etc., etc. Et cette vie-là, cette vie neuve, cette vie autre, elle était le résultat, à mes yeux, d'une résurrection événementielle. Alors, le nouage de tout ça, c'est mon rapport à saint Paul.
Alors, peut-être, rappelons le chemin de Damas, vous l'évoquez. Alors, il y a plusieurs versions sur ce qui se serait passé sur le chemin de Damas.
Oui, je pense, sur le chemin de Damas, alors, il faut voir le contexte. Paul est sur le chemin de Damas pour aller participer à la persécution des tout premiers chrétiens primitifs. C'est beaucoup dire que dire chrétien, d'ailleurs. Rappelons-nous que, quand saint Paul apparaît, le christianisme, ça n'existe pas. Le christianisme, ça va se sédimenter dans le siècle qui suit, mais Paul est avant le christianisme, puisqu'il en est justement, possiblement, un des fondateurs. Alors Paul va, et alors qu'il est sur la route, il entend une voix. Enfin, on a là, c'est dans la figure du miracle. Il y a quelque chose advient de totalement inattendu, d'imprévisible, et qui est généralement représenté par des célèbres peintures, notamment celle du Caravage, comme la chute du cheval, tellement cette voix est impérieuse et oblige à ce qu'on l'écoute. Et suite à cela, eh bien, il inverse littéralement son trajet, sa route de Damas. La route de Damas était une route pour aller persécuter la nouveauté chrétienne, et ça va devenir la route pour la rallier, la constituer. Donc c'est un changement de vie. C'est un changement, littéralement un changement d'orientation de la vie. C'est la même route, mais elle va dans une direction opposée.
Changement de vie qui associe de particulier, qui ne repose sur rien d'autre que la parole de celui qui l'a vécu. Et c'est sur cette dimension, cette absence de socle vérifiable et démontrable que vous-même déployez votre argumentation, puisque de l'événement qui est arrivé à Saint-Paul, on ne peut retenir que ce qu'il en dit. Et du coup, Saint-Paul demande de notre part une forme d'emblée de confiance, voire de foi. Il faut croire en ce qu'il dit.
Je dirais qu'il en va toujours de même pour un événement véritable, parce que le propre de l'événement, c'est d'être une apparition et une disparition. Lorsque je dis que l'événement arrive, c'est précisément pour dire que la forme d'être de l'événement n'est pas ce qui permet de l'identifier. Ce qui permet de l'identifier, c'est sa force de rupture, et cette force de rupture exige que l'événement disparaisse dans les effets qu'il produit. Alors là, finalement, au regard des événements, il n'y a jamais que des témoins. Et ces témoins peuvent d'ailleurs être très souvent contradictoires selon le degré d'incorporation à l'événement qui est le leur. Il y a des tas de gens pour dire qu'en mai 68, après tout, il ne s'est rien passé de vraiment important, que le régime s'est stabilisé, que voilà. Et il en va de même pour tout événement, même historique de grande ampleur. Il y a beaucoup de témoins, mais le sens qu'on donne à ce qui arrive peut varier considérablement et être absolument contradictoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui m'intéresse chez saint Paul, c'est la puissance avec laquelle il déplie la logique de tout cela. Ce n'est pas le côté vérifiable des choses ne m'intéresse pas beaucoup. Personnellement, je ne pense pas que Dieu ait parlé à saint Paul. Hein. Je pense qu'il s'est produit dans la subjectivité de saint Paul quelque chose qui lui a paru être venir du dehors, lui paraît lui être quelque chose auquel il fallait obéir. Voilà. Et ça, c'est la puissance événementielle pure. Qu'il en soit le seul témoin, eh bien, ça, c'est un fait qui peut nous conduire à douter que la fable qu'il monte à partir de là soit l'exactitude de ce qui est arrivé. Mais il va en déplier complètement la logique avec une conséquence, un esprit de conséquence tout à fait extraordinaire, tout à fait nouveau. Et c'est ça, évidemment, qui intéresse en moi le philosophe, comme si, au fond, j'avais affaire à une mythologie instructive. Après tout, le fait que les fables, y compris les grands romans, l'Iliade et l'Odyssée, Tristan et Iseut, inspirent le philosophe, à mon avis, c'est la moindre des choses. Alors, si on considère que le christianisme tout entier est fondé sur une fable, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, je veux dire, en effet, c'est mon point de vue, mais que cette fable puisse être extraordinairement instructive, c'est une des lois de la philosophie.
Oui, ça ne vous gêne pas, même au contraire, vous en faites votre miel, puisque c'est à partir de cette fable que vous montrez comment, effectivement, saint Paul va déployer une argumentation allant dans son sens, mais surtout, vous faites de saint Paul la figure de celui qui a réussi à soustraire la vérité à ce que vous nommez l'emprise communautaire. Et c'est là où j'en reviens à l'importance de cette absence de démontrabilité de ce qui lui est arrivé, c'est qu'en réalité, la façon qu'il a de trouver de se soustraire à l'emprise communautaire et donc d'être détenteur d'une vérité qui n'appartient qu'à lui, qu'il peut ensuite répandre, ne se fonde sur rien de démontrable. Donc on a là ici, le fondement est extrêmement friable alors que les conséquences sont énormes. Mais à partir de là, comment comprendre le fait que d'un côté, il se soustrait à l'emprise communautaire et de l'autre, vous en faites le fondateur de l'universalisme ? Comment alors, se passe le lien de la singularité seule contre tout ça, la fondation de l'universalisme?
Alors justement, vous touchez là au point central, de ce que j'ai essayé de penser. Et nous sommes là au point de la naissance, de l'intelligibilité de ce que c'est que la naissance d'une nouvelle singularité qui cependant va s'avérer universelle. Comment ceci est-il possible? La difficulté est qu'il faut naturellement se soustraire, que quelque chose se soit soustrait aux lois de la communauté, et c'est-à-dire aux lois du monde tel qu'il est. Il faut que quelque chose soit en défaillance par rapport à ces lois du monde. Et là, on en a une image fabuleuse, sans doute, mais typique. C'est celle du chemin de Damas. Il allait faire son devoir tel que ce devoir était organisé par le monde, à savoir, en tant que juif, persécuter ces gens qui se prononçait contre la loi, contre la tradition, contre la communauté. Il se trouve que quelque chose arrive, dont en effet nous n'avons que sa version, qui le détourne de cela et lui ouvre la possibilité d'une compréhension inédite de ce phénomène ordinairement qualifié d'hérésie. Parce que c'est ça, saint Paul, c'est celui qui va transformer une hérésie en religion, qui va transformer une dissidence en domination, etc. En ce sens, c'est un révolutionnaire, au sens strict. C'est un révolutionnaire au sens strict. Et alors, effectivement, du coup, on a un contraste entre la faiblesse apparente de la césure événementielle, de la coupure, et l'énormité des conséquences à la fois théoriques, pratiques, historiques qui va en découler. Et précisément parce que cet exemple est pur, puisqu'on a la chute de cheval sur le chemin de Damas, dont il est le seul témoin d'un côté et de l'autre, à l'autre bout, l'énormité historique du christianisme institué, c'est ça qui fait vraiment une allégorie très forte de l'inclusion de l'événement dans le processus de vérité. Alors, c'est la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, c'est que cette nouveauté, précisément parce qu'elle déroge à toutes les règles de la communauté, saint Paul va être astreint, je crois. Je crois que c'est aussi une obligation pour lui. Il va être astreint de dire qu'elle a une portée universelle, c'est-à-dire qu'elle est universellement adressée. Et au fond, c'est une conséquence logique, parce qu'elle lui a été adressée à lui, mais lui n'est rien de particulier. Et donc, pourquoi lui ? Eh bien, pourquoi lui ? Parce que c'est lui qui a été, en quelque sorte, au hasard, choisi au hasard pour être le dépositaire de l'événement. Donc son devoir, c'est de transformer cet anonymat, en réalité, en universalité. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va commencer à dire que ce qu'il a reçu là, ce qu'il a compris là, ne peut pas être enfermé dans la communauté, ni même dans la loi, mais doit s'adresser à tout un chacun. Et ça va être les énoncés fameux, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, ni homme, ni femme. Il y a que nous sommes tous égaux au regard de l'événement. Parce que c'est exactement au regard de la résurrection du Christ que nous sommes tous égaux. Donc l'événement est producteur d'universalité, précisément parce qu'il déroge, premièrement, aux lois de la nature, puisqu'il y a résurrection et non pas mort, et deuxièmement, aux lois de la communauté, parce qu'il y a un nouveau message. Alors tout ça me parle beaucoup, et je crois qu'on peut, appliquer cette logique, indépendamment de la fable, alors, à tous les registres de ce qu'on peut appeler les nouveautés universelles.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La question qui se pose naturellement à Alain Badiou, une fois que l'on a posé, comment se passe le processus qui part d'une singularité pour fonder un universalisme, c'est celle de la mise en œuvre réelle de ce discours, puisque c'en est un, hein, les épîtres de saint Paul qui sont, vous l'avez bien insisté là-dessus, hein, vraiment un chef-d'œuvre littéraire qui multiplie tous les registres, et en ça c'est vrai que c'est très shakespearien, c'est un excès permanent dans les deux sens du terme d'ailleurs. Il y a la question du dire, comment s'adresser aux gens, et cette question-là qui, chez saint Paul et dans le texte que je viens de lire, à une dimension proprement religieuse, savoir essayer d'assigner un point de départ à la pensée qui n'est pas son esprit à lui, mais la puissance de Dieu, on peut la transposer et l'appliquer au cadre de réflexion qui est le vôtre, et de savoir comment, à partir du moment où l'on détient une vérité, on s'adresse aux gens pour la communiquer et pour les en convaincre. Et c'est là une dimension qui n'est pas du tout secondaire, puisque c'est celle de la mise en pratique concrète de l'événement qui, sans cela, ne serait que subjectif.
Absolument, et c'est pour cela que j'ai soutenu que saint Paul était aussi l'inventeur de la figure du militant. Il est beaucoup plus proche, à mon avis, de la figure du militant que de la figure de l'ecclésiastique installé. Et le texte que vous avez lu souligne fortement que ce n'est pas au nom d'un pouvoir ou d'une puissance qu'il parle. Et on a eu grand tort de faire de Paul le fondateur de l'Église au sens d'un appareil de puissance. Pour employer une métaphore, on a confondu en Paul Lénine et Staline.
C'est-à-dire... Non, mais il dit quand même que sa parole repose sur la puissance de
oui,
Dieu.
Oui, mais attention, ouais. La puissance de Dieu en la circonstance, ça pourrait être une catégorie de la communauté. C'est donc pas ça qui va être actif dans la prédication de Paul. La communauté juive reconnaît unanimement la puissance de Dieu. Donc en réalité, Dieu est le nom de quoi ici ? Dieu est le nom de la résurrection du Christ, c'est ça le point novateur. Et la résurrection du Christ, c'est quoi ? C'est l'événement. Donc en réalité, la puissance de Dieu, c'est la puissance événementielle. Ce n'est pas sa puissance en tant que roi du monde, c'est sa puissance d'avoir pris en quelque sorte le risque singulier de s'exposer à la mort. C'est ça la nouveauté chrétienne. Et ce risque de s'exposer à la mort est uniquement destiné à montrer que nous pouvons faire mourir en nous le vieil homme et ressusciter dans la nouveauté du sujet. Alors, ceci dit, c'est absolument vrai que la résurrection a eu lieu et que maintenant il s'agit de convaincre des sujets qui soit ignorent que ça a eu lieu, soit admettent que ça a eu lieu mais n'en tirent aucune conséquence véritable. Le deuxième point est d'ailleurs très important aux yeux de Paul, et c'est lui qui va le mettre en conflit avec la communauté. C'est-à-dire, il va objecter à la communauté de ne pas reconnaître vraiment ce qui, pourtant, est advenu et s'est passé. Et c'est le point tout à fait important du conflit latent d'abord, puis explicite, entre Paul et Pierre. Parce que Pierre, lui, va être très tenté par l'idée qu'on pourrait peut-être s'arranger avec la communauté. Donc il ne va pas vouloir vraiment de l'universalisation de la nouvelle. Il va dire on va transformer la communauté du dedans en lui faisant part de la nouvelle de la résurrection, mais la destination communautaire de la chose est maintenue. La grande rupture de Paul, c'est de dire non, ce qui m'a été adressé à moi en tant qu'individu quelconque, ce n'est pas en tant que juif que je l'ai reçu, c'est en tant qu'homme. Ça pourrait être en tant que femme, en tant qu'esclave, en tant que maître, en tant que romain. Et donc, il faut universaliser le message. Il va donc inventer une figure subjective, à mon avis, pratiquement absente de l'Antiquité, mais qui nous est devenue très familière. C'est celle du militant de l'universalisme, celui qui cherche à adresser, à faire connaître et à rallier à un message, non pas au nom de la destination communautaire, nationale de ce message, mais au nom du fait qu'il est adressé par principe à l'humanité tout entière et la concerne tout entière. Alors c'est une invention extraordinaire et Paul, le style de Paul, le mode d'existence de Paul va être entièrement commandé par cela. Si on se demande comment on peut persuader les peuples, de tout cela, eh bien il faut d'abord et patiemment entrer dans les communautés différentes pour, de l'intérieur de ces communautés différentes, faire passer l'universalité du message. Il a donc très conscience, Paul, qu'on ne peut pas convaincre les gens de l'universalité de quelque chose sans connaître leurs particularités, sans partir de leurs particularités. C'est pourquoi il va dire, eh bien, il faut être romain chez les romains, il faut être juif avec les juifs, il faut être grec avec les grecs, et de l'intérieur de cela... Puisque ça s'adresse à tout le monde, ça doit pouvoir être compris par un grec, ça doit pouvoir être compris par un romain, ça doit pouvoir être compris par un juif. Et il a inventé, par conséquent, aussi ce que plus tard les marxistes appelleront la liaison de masse, c'est-à-dire le fait que lorsque vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, il faut d'abord que vous entriez dans la connaissance de ce quelqu'un, et donc dans sa particularité. Alors, et je crois que les épîtres de saint Paul sont un reflet de ça, parce que c'est quoi ? Ce sont des lettres envoyées au tout premier groupe rallié. Donc c'est comme s'il avait créé des petites cellules dans un certain nombre de villes et qu'à partir de là, il essayait d'étendre le réseau de persuasion à l'univers tout entier. L'univers tout entier, pour lui, c'est l'Empire romain. C'est ça, les bornes de l'univers. Il ne voit pas plus loin que ça. Et il a rêvé toute sa vie, par exemple, de se rendre en Espagne, parce que c'était pour lui le bout du monde. Et s'il avait porté le message jusqu'en Espagne, il aurait eu le sentiment de le porter jusqu'à la mer, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et donc, cette figure du militant de l'universalisme, après tout, comment un philosophe pourrait-il ne pas la saluer ?
C'est précisément ici que le débat devient, disons, proprement philosophique, puisque vous faites de Saint-Paul une figure fondamentale justement dans la pensée de l'universalisme, mais vous faites lui aussi un anti-philosophe, hein, c'est selon votre terme, on y reviendra peut-être ensuite. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce qui s'y joue avec cette pensée de l'universalisme. Vous avez évoqué les passages où Saint-Paul dit que chez les Grecs, il faut faire comme les Grecs, chez les Romains, comme chez les Romains, dans une sorte de morale provisoire cartésienne avant l'heure, hein, il faut suivre les us et les coutumes du pays où nous sommes. Ce qui se joue donc, c'est le rapport entre l'universalisme et les particularités. Dans quelle mesure est-ce que l'universalisme peut respecter non seulement les particularités, même les singularités, c'est-à-dire chaque individu en tant qu'il est subjectif et qu'il n'est pas simplement un individu, donc un élément dans un ensemble plus général. Et dans quelle mesure, en retour, ces unités-là, ces singularités ne sont pas ressaisies par l'universalisme. Ici, pour parler en termes plus clairs, peut-être, vous posez la question de la contemporanéité de Paul, c'est-à-dire ce que Paul nous aide à penser aujourd'hui. Et vous avez évoqué sa figure militante, et c'est en cela qu'il vous est utile, si j'ose dire, dans votre pensée, puisqu'il vous permet de penser le renouveau politique qui peut advenir à l'échelle d'un individu, et dans quelle mesure ce renouveau-là peut avoir une dimension universelle. Il faut préciser cette dimension-là de votre texte, quand même.
Absolument, absolument. Et il y a chez Paul toute une théorie de à quelles conditions on peut répondre positivement à la question qui est la vôtre, là. C'est-à-dire, à quelles conditions peut-on convaincre et rallier un individu, alors une personne singulière, à la prédication universaliste, en l'occurrence à la prédication pour la fable chrétienne, enfin, elle nous tient lieu de figure de l'universel, sans que cet individu soit barré, annulé dans sa singularité. Et donc, il s'agit d'une transformation immanente. C'est ça qui est cherché par le militant. C'est-à-dire, on cherche que l'individu reste ce qu'il est. Parce que s'il ne restait pas ce qu'il est, il n'y aurait pas d'extension du message. On rallierait une secte, en réalité. Pour épandre le message, il faut que les individus, les singularités et même les communautés restent dans une certaine mesure ce qu'elles sont et qu'elles deviennent de nouveaux porteurs du message. Alors, il étudie les conditions. Il est très intéressant de voir que la première des conditions, c'est de ne pas violenter les gens sur leurs coutumes, leur mode d'être, leurs habitudes. Dès lors que, puisque le message de la résurrection subjective est universel, il doit pouvoir être approprié par des gens complètement différents. S'il fallait réellement les changer dans leurs différences, c'est que le message ne serait pas universel, justement. Il est universel parce qu'il s'adresse à l'humanité tout entière dans ses différences. Et donc, quand il dit, c'est aussi un autre passage de mon texte, quand il dit « il n'y a ni grec, ni romain, ni homme, ni femme », etc., et il sait très bien aussi qu'en réalité, il n'y a que des grecs, que des romains, que des hommes, que des femmes, que des esclaves, que des maîtres, et que simplement, le message universel doit pouvoir être approprié par la différence elle-même. Je voudrais signaler à ce propos, pour en finir, que sur la question des femmes, on a beaucoup parlé d'un antiféminisme radical de Paul, je m'élève contre cette doctrine. Naturellement, il est dans le contexte de l'Antiquité. On ne va pas lui demander d'avoir les idées de Virginia Woolf ou de Simone de Beauvoir, ça je suis d'accord, mais enfin ce sera absurde aussi. Dans le domaine de l'Antiquité, il procède à une proposition tout à fait novatrice qui est que les femmes peuvent prêcher. Or ça, c'était absolument inintelligible dans le contexte de l'époque, et ça me rappelle, malgré tout, le fait que Platon déclare dans la République que les femmes peuvent être chefs d'État.
Premièrement, ce que j'entends par l'universel facile, c'est l'universel qui passe de façon facile, précisément, de l'universel au très nombreux, du très nombreux au majoritaire, du majoritaire à l'indistinct. Et c'est un chemin dont on peut suivre les traces et les voies dans beaucoup de textes qui se réclament de l'universel. Le point d'aboutissement étant le quelconque. Une des manifestations, et je ne dis pas du tout que ce soit le cas chez saint Paul, mais une des manifestations de ce passage, c'est le passage de la notion de religion universelle, par exemple la religion chrétienne, à une religion qui doit convertir le plus grand nombre de gens possible. Ce passage-là, il n'est pas propre au christianisme, on le trouve tout à fait ailleurs. D'un certain point de vue, le discours révolutionnaire français passe lui aussi de l'universalisme qui est un universalisme de concept, a la volonté de faire adhérer le plus grand nombre possible d'êtres humains aux idéaux révolutionnaires.
Quel est le réel unificateur de la promotion de la vertu culturelle des sous-ensembles opprimés, de cet éloge langagier des particularismes communautaires, lesquels renvoient toujours en définitive, outre la langue, à la race, à la nation, à la religion ou au sexe? C'est de toute évidence l'abstraction monétaire, dont le faux universel s'accommode parfaitement des bigarrures communautaristes. La longue expérience des dictatures communistes aura eu le mérite de montrer que la mondialisation financière, le règne sans partage de l'universalité vide du capital, n'avait pour ennemi véritable qu'un autre projet universel, même dévoyé et ensanglanté, que seuls Lénine et Mao faisaient réellement peur à qui se proposait de vanter sans restriction les mérites libéraux de l'équivalent général ou les vertus démocratiques de la communication commerciale. L'effondrement sénile de l'URSS, paradigme des États socialistes, a levé provisoirement la peur, déchaîné l'abstraction vide, abaissé la pensée de tous. Et ce n'est certes pas en renonçant à l'universel concret des vérités pour affirmer le droit des minorités raciales, religieuses, nationales ou sexuelles qu'on ralentira la dévastation. Non, nous ne laisserons pas les droits de la vérité pensée n'avoir pour instance que le monétarisme libre-échangiste et son médiocre pendant politique, le capitalo-parlementarisme, dont le beau mot de démocratie couvre de plus en plus mal la misère. Il faut, je pense, à ce point de cette discussion, Alain Badiou, préciser du coup ce terme d'universalisme. Vous l'avez évoqué chez Saint-Paul, il restait plutôt abstrait. Dans le début de votre ouvrage, donc le chapitre intitulé « Contemporanéité de Saint-Paul », vous écrivez le paragraphe que je viens de lire, où donc les choses apparaissent clairement. Ce que vous dénoncez, cet universalisme, est celui de l'abstraction monétaire. Le seul opposant à cet universalisme serait, dites-vous, enfin aurait pu être, donc cette phrase fait polémique, c'est pour ça que je vous la soumets, que seule la longue expérience des dictatures communistes aura eu le mérite de montrer que la mondialisation financière n'avait pour ennemi véritable qu'un autre projet universel, même dévoyé et ensanglanté, que seuls Lénine et Mao faisaient réellement peur. Depuis que la peur n'est plus là, l'abstraction monétaire universelle n'a plus d'autre adversaire.
Oui, ça c'est un fait d'ailleurs, que depuis qu'ils ne sont plus là, l'abstraction monétaire et universelle est la loi du monde.
Hein, ce qui pose quand même problème, c'est que vous semblez justifier du coup le régime de peur qui était instauré.
Non, pas du tout, je ne justifie rien. Je dis simplement que le projet d'une organisation sociale délivrée du motif central de la propriété était le seul adversaire global, le seul adversaire synthétique de l'univers que nous connaissons, c'est-à-dire un univers dans lequel une oligarchie financière prescrit pratiquement l'ensemble des décisions qui concernent notre destin. Voilà ce que je dis. Alors, ce que je pense, c'est que, précisément, on pourrait dire que l'universalité de la monnaie, l'universalité de l'argent, c'est précisément l'universalité abstraite ou l'universalité faible, y compris celle dont parle Jean-Claude Milner dans le texte que nous venons d'écouter.
Dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, c'est un extrait du Grain à moudre de 2007, en effet, voilà. Où il parlait de la déchéance de l'universel vers le quelconque.
Exactement. Évidemment, toute universalité forte est une universalité qui s'appuie au contraire sur le ralliement unifié, subjectif, de groupes sociaux tout à fait différents, de nationalités différentes, de peuples différents, qui ne sont pas rassemblés par une abstraction commerciale, mais qui sont rassemblés par la conviction que, eh bien, comme le dit communisme, il faut vivre en commun. Voilà. Il faut construire une vie commune. Et que la vie commune, elle suppose quand même une règle minimale égalitaire. Or, si on réfléchit bien, non seulement Saint-Paul, c'est la première pensée universaliste au sens strict, liant l'universel à son avènement, à son événement, mais c'est aussi une proposition tout à fait égalitaire. C'est-à-dire qu'au regard du destin général de l'humanité, l'opposition entre les maîtres et les esclaves est une opposition dépourvue de sens. Alors, il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut l'abolir, parce que dans sa fable, elle sera abolie dans le règne de Dieu. Ça, c'est effectivement, c'est la limite de la fable. Mais on peut la prendre au pied de la lettre et dire qu'il faut l'abolir tout court. C'est-à-dire que dans son règne terrestre, l'opposition des maîtres et des esclaves est une objection intrinsèque au caractère proprement universel de la condition humaine. Voilà pourquoi je dis que l'héritage paulinien le plus fidèle, c'est en effet le communisme. C'est le communisme, si on enlève le côté fabuleux de la résurrection et de la survie de l'âme, eh bien, on retient quoi ? On retient que l'égalitarisme est une condition de l'universalité, c'est-à-dire de la vie en commun. En ce sens, je pense que de saint Paul aux problèmes qui sont vraiment les problèmes d'aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce qui peut libérer la liberté de la propriété ? Voilà, je le dirais comme ça. Comment peut-on libérer la liberté elle-même de l'emprise, de la configuration du monde par la dictature de la propriété et de la spéculation financière, la réponse est paulinienne de façon inévitable. Ça ne peut être que par la proposition universelle d'une vie en commun qui part de l'axiome que les hommes et les femmes sont en et doivent être en position d'égalité.
Alors, deux choses à ce propos, puisqu'elles sont directement impliquées, même présentes au sein de votre texte. La première, quand on oppose un universalisme à un autre, ce que vous faites, la seule façon de s'opposer à l'universalisme capitaliste, c'est de lui proposer en retour de l'affronter avec l'universalisme communiste, justement. Jusqu'à quel point pouvons-nous tenir cette position-là ? J'en reviens à la question que je vous posais tout à l'heure par rapport à Saint-Paul, les questions de la mise en œuvre de l'idée universelle qui lui était révélée, qu'il voulait donc essayer de transmettre, donc de mettre en œuvre. Pour en revenir au texte que j'ai lu, que l'on trouve dans votre ouvrage, ces mises en œuvre-là posent problème. Vous citez Lénine et Mao et vous parlez de ces projets qui, même dévoyés et ensanglantés, avaient quand même une certaine valeur. Eux seuls pouvaient s'opposer au capitalisme. Ça pose quand même un problème, puisque si ces projets-là ont été dévoyés et ensanglantés, la force n'était-elle pas d'autant plus présente qu'elle est abstraite et que sans cesse, du coup, le communisme est amené à renaître de ses cendres, puisque quand il n'est pas là, quand il n'y a pas de représentants qui ont le pouvoir, alors on en a besoin, on les rappelle. Or, leur présence, si on cite que Lénine et Mao, elle-même était loin d'être fidèle au projet initialement prôné. C'est la première chose. La deuxième chose, que reprochez-vous à la démocratie dans ce cas ? C'est pas incompatible avec l'égalité que vous prenez, que vous tirez de Saint-Paul.
Oui, mais si vous voulez, je crois qu'il faut aussi tirer les enseignements, non seulement de Saint-Paul, mais de ce qu'a été l'Église. C'est la même objection que celle que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que finalement, ce qui était une promesse d'émancipation égalitaire universelle s'est renversé en figure de pouvoir. Et je pense que il faut compléter, en effet, sur ce point, la prédication de saint Paul par une analyse véritable du sens de l'énoncé « Laissons à l'empereur ce qui est à l'empereur et laissons au sujet ce qui est au sujet ». Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en réalité, la grande erreur du mouvement communiste à partir du XIXe siècle a été de s'imaginer que la question clé était la question du pouvoir. En réalité, si on est un paulinien strict, on dira que le mode sur lequel la conviction communiste, en la circonstance, doit se répandre, c'est toujours le mode selon lequel les individus s'aperçoivent que c'est leur conviction. Non pas que c'est une conviction qu'on leur impose du dehors, mais qu'ils ont des raisons propres, saisies dans leurs propres différences, de concevoir l'idée comme étant celle de leur conviction. Là aussi, nous sommes dans la même discussion qu'à propos de Platon. Je pense que ce que Platon cherchait, c'est à déceler en chacun le fait que la proposition universelle qui était la sienne était dans le mouvement de sa conviction. C'est pour ça qu'il a écrit des dialogues. Et sinon, on ne comprend pas pourquoi il écrit des dialogues. Lui aussi, c'est une forme militante, le dialogue de philosophie. Vous partez de l'interlocuteur et vous cherchez à montrer que du point de vue de ce dont il est lui-même capable, c'est cette idée qui va l'aider à s'émanciper et à se libérer des pressions, soit de la communauté fermée, soit de l'abstraction monétaire. Alors, je pense que nous en sommes là. Le bilan des tentatives communistes et terroristes du XXe siècle est un bilan qui est très important et qui est que nous devons maintenir la propagation, disons, politique de l'idée à distance du pouvoir. Il faut, en quelque sorte, l'encercler lentement par une conviction généralisée et le faire ainsi comme disait Marx d'ailleurs, dépérir, plutôt que de s'en emparer violemment, parce que si on s'en empare violemment, eh bien, on associera la conviction à cette violence pour toujours. Et cela, comme on le voit, ça l'aura prostituée.
Ce qui pose une question ici, qui est elle aussi directement présente dans le texte dont nous parlons aujourd'hui, consacré à Saint-Paul, c'est celle du rapport entre, du coup, la singularité dépositaire d'une vérité universelle et la loi, et le rapport à la loi. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que l'action peut elle-même se faire de manière politique sans passer par le recours de la loi ?
C'est un problème que vous avez tout à fait raison de soulever. Et je pense que la solution, en tout cas l'esquisse de solution que j'aurais tendance à proposer, c'est de dire que la loi doit être conçue comme, en science, comme une formalisation provisoire. Et quand vous faites une expérimentation scientifique, vous avez aussi des formalisations mathématiques. Ces formalisations mathématiques, elles sont à l'épreuve de l'expérience. Et peut-être faudra-t-il en changer. Donc je pense en effet qu'il y a besoin de loi. On ne peut pas congédier la loi, mais il faut toujours la concevoir, non pas comme le dispositif immuable à l'intérieur duquel l'action humaine se situe, mais comme quelque chose que précisément le progrès de la conviction et le progrès de la précision de la conviction doit être en état de modifier, parce que la loi n'est jamais qu'une formalisation de la conviction. Elle ne peut pas être autre chose, sinon elle est une loi oppressive. Et je crois que Paul a aussi vu cela. Parce que quand il conteste la loi, en l'occurrence, il s'agit de la loi juive, évidemment.
Il dit « nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ».
Voilà. Il la conteste au nom du fait que le progrès de la conscience, le progrès de la subjectivité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit touchée par la grâce, va nécessairement entraîner des modifications, des altérations ou des disparitions même de l'élément strictement formel, strictement légal. Au fond, la contradiction latente dans tout ça, c'est la contradiction entre le réel et le formel. Et elle est dialectique en ce sens qu'on sait bien que nous ne pouvons toucher le réel qu'avec l'aide de formalisation. Nous retournons là presque à notre début sur la fonction des mathématiques dans l'ontologie. Et la question du rapport de la loi et de la grâce, ou de la loi et de la subjectivité vivante, est très comparable au rapport entre la formalisation mathématique et l'événement, et les conséquences de l'événement. Et donc, il y a une homogénéité dans tout ça. Et je soutiens que Paul est non seulement quelqu'un qui peut apparaître comme un de nos fondateurs de pensée, mais si on le lit bien, il nous met déjà en garde contre les dégénérescences possibles d'une vision de l'universalité comme puissance, comme pouvoir. L'universalité n'est pas du tout le pouvoir ou la puissance, c'est la communauté qui l'est, c'est la particularité qui veut toujours se distinguer et s'imposer. L'universalité, c'est fondamentalement l'égalité des convictions, et l'égalité des convictions, elle a besoin sans doute dans sa constitution de formalismes successifs, mais ces formalismes seront toujours des formalismes momentanés, circonstanciels.
L'écart chez Saint-Paul se fait entre, d'un côté, sa foi et de l'autre, la raison, disons. Il prend d'autres termes, hein. c'était pas d'un côté la loi et la foi. Disons qu'il y a la chair d'un côté et de l'autre, une sorte d'esprit qui, lui, serait du côté de la vie. Il y a cette opposition, finalement, entre la loi et la foi et celle entre la mort et la vie chez Saint-Paul, ce qui est très frappant.
En partie.
Or, chez vous, il n'y a pas cette dimension de foi religieuse. Donc, comment l'opposition est-elle reconduite ?
Tout de même, si, parce que ce que j'appelle conviction, pour ne pas l'appeler foi, est un peu au même niveau. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, quand même, une émancipation subjective est toujours liée à une conviction. Elle est toujours liée à une conviction. Donc il faut bien en revenir à un moment quelconque sur le point que la force d'un projet quelconque, d'un projet qui se prétend universel, n'a pas d'autre recours que d'en venir aux convictions. Il n'y a pas d'autre dimension que cela. Et si l'accès à l'universel suppose une conversion de nos intérêts les plus particuliers, les plus singuliers, les moins universels et les moins égalitaires, il faudra bien aussi que l'événement nous aide pour cette conversion. Donc, à la fin des fins, nous allons avoir nécessairement une connexion entre l'événement et l'universel qui nous donne à la fois la contingence de tout cela, du côté de l'événement, et en même temps l'avenir rationnel de tout cela, du côté de l'universel. Cette tension, on ne peut pas l'éviter.
Et cette tension est celle qu'essaie effectivement de résorber saint Paul lui-même. Saint Paul espère en quelque chose. Il y a de l'espoir dans ces textes. Il ouvre vers un horizon qui est un horizon futur, en lequel il croit. Et pourtant, il ne justifie pas cet espoir. Disons qu'on en revient ici à la nature du socle même de cette affirmation, de cette vérité dont il fait l'épreuve. L'espoir est un pari. On est là, ici, on revient aussi à des discussions qu'on a eues cette semaine. En réalité, le fond de l'affaire est une forme de pari. Pari du fait que la vérité dont nous sommes détenteurs, ou la conviction que nous avons, va pouvoir porter ses fruits, non seulement de manière universelle, mais de manière réelle, concrète.
Oui, mais alors ça, n'oubliez pas que dans la conception qui est la mienne de l'universalité d'une vérité, il s'agit de l'universalité d'un processus, donc d'une construction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vérité d'abord et puis sa construction ensuite. Et ce qu'il y a d'abord, c'est l'événement. Et ce qui vient ensuite, c'est le processus aride, quelquefois, compliqué, du devenir de la construction de la vérité. Alors là, c'est comme pour l'amour. On peut rencontrer, dans l'éblouissement de l'événement, l'âme sœur ou celui qu'on va aimer. Mais après, la vérité de cet amour, elle va se construire. Elle va se construire dans la durée, dans le temps. Et tout le monde sait que c'est une épreuve d'une autre nature. Et en fait, c'est là que les échecs, les erreurs sont guettent à chaque pas. Elles guettent à chaque pas la construction amoureuse du couple, comme elles ont guetté à chaque pas la contradiction politique. C'est-à-dire se prendre aux jeux internes de pouvoir qui sont contenus inévitablement dans toute construction de ce genre. Et alors, de même que, finalement, la jalousie est un despotisme amoureux, de même, l'État bureaucratique est un parasite de l'émancipation.
Sauf que l'amour est peut-être la chose au monde la moins universelle, quand même. On tombe amoureux d'une personne, on ne tombe pas amoureux d'un universel.
Ah non, mais l'amour a une portée universelle. C'est pour ça que les grands amours intéressent toute l'humanité. Parce que l'amour, c'est la reconnaissance effective de notre lien à l'autre. C'est la reconnaissance la plus... Alors ça a une valeur universelle. C'est d'ailleurs absolument ce que dit aussi saint Paul. Il l'appelle charité. Mais si vous n'aimez pas l'autre au point de considérer que vous devez partager avec lui égalitairement la conviction, votre conviction ne vaut rien. Il le dit en propres termes. Sans la charité, la foi ne suffit pas. Elle sera impuissante. Et l'amour, de ce point de vue-là, est évidemment une des plus simples et des plus violentes expériences de l'universalité, parce qu'elle est l'expérience de la différence humaine, de la différence entre individus comme telle. Et il va falloir construire un monde à partir de là. Et ça, c'est quand même une autre affaire. C'est une autre affaire.
Chanson universelle, écoute bien la nouvelle, écoute bien mon garçon, nous la chanterons un jour dans toutes les maisons. Attends, attends, c'est pour dans pas très longtemps.
Merci beaucoup Alain Bailly. Je suis contente de vous avoir entendu évoquer l'amour, puisqu'on l'avait dit dès le premier jour, les quatre conditions de la vérité étaient la science, l'art, la politique et l'amour. Et donc il fallait bien qu'on en dise quelques mots.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Deux lectures à l'issue de cette émission que j'aimerais vous conseiller. Le Saint-Paul, évidemment, d'Alain Badiou, dont nous avons parlé aujourd'hui. Saint-Paul, la fondation de l'universalisme, publié aux éditions PUF. Et surtout, on n'a pas eu l'occasion d'en parler malheureusement, le scénario que Pier Paolo Pasolini a écrit et qui s'intitule Saint-Paul et qui propose un Saint-Paul contemporain et moderne. Un scénario qui est absolument passionnant, qui malheureusement n'a jamais été tourné. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie avec vous, François Nudelman. Bonjour.
Bonjour Adèle. Avoir une image de soi, c'est expérimenter une tension entre d'un côté l'identité propre et de l'autre une expression ressemblante. De nombreux penseurs de l'Antiquité ont réfléchi à cet écart et Anca Vassiliou s'en inspire pour discuter ce qu'on appelle la conscience de soi. Son livre s'appelle « Image de soi dans l'Antiquité tardive » et il paraît chez Vrin. Anca Vassiliou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous intéressez à la question du rapport à soi, revenant évidemment sur le connais-toi toi-même, mais finalement, qu'est-ce que le soi-même ? On se pose la question en vous lisant.
Oui, c'est la question que se posent beaucoup de philosophes et c'est une ou la question philosophique qui va avec qu'est-ce que l'homme ? Alors, le rapport à soi dans l'Antiquité pose problème parce qu'il est difficile de définir ce que soi est pour eux. Oui, est-ce que c'est un rapport de perception de soi, tout simplement ?
Oui, parce que c'est une question
de sensation.
Une question familière aujourd'hui, mais qui n'a peut-être pas le même sens pour l'Antiquité.
Ou alors, quelque chose qui tient de l'ordre du dialogue intérieur qu'on a avec soi-même, donc qui comporte une réflexion, une pensée, qui accompagne toute action. Et dans l'action, il y a aussi l'expression qu'on donne de soi et qui n'est pas nécessairement identique à la perception qu'on peut avoir. Donc il y a une réflexion et une réflexivité en même temps, spéculative et spéculaire, autour de cette question de soi.
En quoi cette réflexivité est-elle très différente de, par exemple, celle de Descartes ou celle des modernes jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le soi ?
Parce qu'elle n'est pas identifiée à la pensée uniquement. Oui. C'est ça qui fait la différence avec le cogito cartésien. La pensée n'est pas uniquement l'expression qu'on a de soi-même. Le discours, la trace qu'on donne de soi, la façon dont on discute avec l'autre est aussi une manière de se penser soi-même. Et je crois qu'au fond de cette question pour les antiques, c'est la difficulté d'articuler l'individu, la singularité de l'individu, qui n'a pas une forme idéal propre et l'universalité. Et c'est pour ça que je me suis interrogée, je suis partie de cette réflexion. Y a-t-il dans l'image de soi qu'on peut avoir quand on tient un discours en son nom, si tant est qu'il y a un discours en son nom propre dans l'Antiquité, une relation entre la singularité de l'individu et la conscience de faire partie d'un genre, et en l'occurrence du genre humain, et donc d'une espèce d'universalité qui s'exprime à travers l'unicité de l'individu. C'est toute la problématique qui fait le lien entre la réflexion archaïque, la loi du sang, on est soi quand on est fils d'eux, et l'identification de soi avec la pensée qu'on a, c'est-à-dire le dialogue transformé en dialogue muet avec soi-même.
Vous étudiez plusieurs médiations entre le soi et le soi, hein, entre soi et soi-même, notamment celle de la parole publique ou celle du miroir, tous ces effets de réflexivité.
Oui, je les étudie surtout dans la première partie, qui est aussi peut-être la plus longue du livre, parce que je pars du discours d'Apulée, qui s'appelle l'Apologie d'Apulée, donc l'Apologie qui rappelle bien sûr l'Apologie de Socrate et celle
d'Isocrate. Mais de manière un peu ironique.
Et que je n'interprète pas du point de vue d'un récit. C'est pas une anecdote, c'est une forme de repenser la philosophie.
On peut peut-être préciser rappeler un petit peu qui est Apulée.
Apulée est un philosophe romain, mais qui a étudié à Athènes, qui est un platonicien. En tout cas, il se réclame de Platon. Il a même écrit un petit traité sur les principales doctrines platoniciennes. Et en même temps, c'est un auteur, un littéraire, comme on dit de notre temps, parce que c'est aussi l'auteur d'un roman très connu, qui s'appelle, bien plus connu que l'Apologie, qui s'appelle l'Andor ou les Métamorphoses. Et dans l'Apologie, il y a plusieurs chapitres dans la première partie qui sont consacrés au miroir. Et le miroir qui est un des chefs d'accusation, parce qu'il s'agit d'un procès, la forme littéraire est celle d'un procès. Le miroir est un objet d'accusation parce qu'il fait partie du trousseau des acteurs ou des magiciens et qu'il n'a rien à faire dans la besace d'un philosophe. Et la défense du miroir est une défense de la philosophie. Et donc je suis partie de cette partie consacrée au miroir, évidemment jouant sur le connais-toi toi-même qui se reflète dans un discours sur le miroir comme l'apologie d'Apulée se reflète dans l'apologie de Socrate.
Vous étudiez le miroitement, mais dans les formes aussi d'auto-réflexivité, il y a tout simplement la contemplation.
Oui, alors la contemplation est l'exercice même de la philosophie. Le discours d'Apulée est un discours sur ce qu'est la philosophie. La contemplation, c'est la pratique même de l'exercice philosophique.
Un exercice spirituel.
Pas nécessairement, puisque justement je pars de la question « que voit-on quand il y a contemplation ? À quel moment il y a un décrochement ?» de la perception visuelle, donc d'un exercice sensible. Et je compare deux types de contemplation et deux types de rapport au modèle, parce que la contemplation veut dire chercher le modèle dans ce qu'on voit, à savoir le portrait de Périclès par Plutarque, qui est une contemplation historique où on se projette dans la figure d'un personnage historique positif, et la contemplation de Plotin, qui est le renversement de toute ressemblance immanente pour saisir en soi l'un qui dépasse donc cette détermination universelle qui est celle de la pratique de la philosophie comme exercice spirituel. Mais ce n'est pas la seule dimension de la contemplation. Et encore un mot pour le rapprocher d'Apulée, justement. Apulée, il se trouve que est l'un des premiers, peut-être même le premier auteur chez qui le mot même « conscientia », latin, donc qui va donner conscience dans le langage moderne, apparaît, c'est dans le démon de Socrate, et donc un autre ouvrage platonicien d'Apulée, bien qu'il y ait des éléments stoïciens. Or, la conscience pour Apulée est quelque chose qui, pour la première fois, dépasse l'idée d'un démon intérieur pour arriver à se confondre à la pensée avec soi et au dialogue.
Dans ces médiations entre soi et soi-même, le recours à l'extériorité, évidemment, est décisif, le portrait, mais aussi le corps ou la réputation.
C'est un autre revers de la question du rapport à soi, qui n'est pas entre soi et soi, mais entre soi et l'altérité. L'identité se définit par rapport à l'altérité, mais une altérité qui se constitue à partir d'une relation entre soi-même comme autre que soi et l'altérité qui est celui ou celle avec lequel ou laquelle on est en rapport.
Donc, c'est un soi aliéné alors ?
C'est pas un soi aliéné, c'est un soi qui permet justement comme un reflet du miroir de se rencontrer non pas dans une fermeture sur soi, mais au contraire dans une ouverture au dialogue. Le portrait refusé de Plotin est pour cela exemplaire, non pas parce que Plotin aurait eu honte du corps, mais parce que pour lui, l'image de soi ne se réduit pas à cette image qu'un portrait ou une photo, comme on dit de nos jours, d'identité peut en donner.
Merci beaucoup, Anca Vissiliou. Je rappelle le titre de votre livre, « Image de soi dans l'Antiquité tardive », paru chez Vrin. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci beaucoup, François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. La semaine avec Alain Badiou continue demain, vendredi, en compagnie de Philippe Petit. Donc, Philippe Petit et Alain Badiou se demanderont où va la philosophie française. Quant à nous, on vous donne rendez-vous ce samedi 26 janvier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne où France Culture organise son premier forum spécial philosophie en partenariat avec le Nouvel Observateur. Une journée entière de débats animée par Philippe Petit, Éric Eschiman du Nouvel Observateur et moi-même. 5 questions, le mariage est-il un lien qui libère? Y a-t-il une vie après l'économie? La politique peut-elle ne pas être décevante? Fin du monde ou fin d'un monde et où va l'industrie? Ce sera samedi prochain, donc rendez-vous à partir de 9h au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Toutes les informations sont en ligne sur le site de France Culture. Et je vous donne également rendez-vous lundi prochain puisque la semaine prochaine seront diffusées l'intégralité de ces débats du lundi au vendredi donc. Et si de samedi à lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, eh bien rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Antoven avec Paola Reimann. Raphaël et Paola parleront ce dimanche du Gorgias de Platon. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.